Nos santé mentale en lutte. Bonjour à tous et bienvenue sur votre radio préférée Fréquence 7 dans la deuxième partie du deuxième épisode de votre nouvelle émission Nos santé mentale en lutte. On est donc à nouveau avec Simon. Salut Simon.
Salut Clara.
Pour continuer cette discussion autour de l'éco-anxiété, ou plutôt on a décidé de l'appeler l'éco-lucidité, ça nous correspond mieux. Alors on s'était quitté avec un vaste sujet, avec le contrôle de la nature et la dichotomie avec la nature, avec cette vision aussi suprémaciste que l'homme blanc notamment avait sur la nature et sur les êtres de manière générale. Et tout cela va avec, bien sûr, avec l'extermination des peuples originels, avec du coup une vision colonisatrice du monde. Et donc c'est comme ça qu'on va commencer cette deuxième partie en parlant de politique, d'écoféminisme et d'explosion du système pour aborder ce thème de l'écolucidité. J'ai une petite préférée dans le milieu théorique, une autrice qui s'appelle Donna Haraway. Son thème, c'est la connaissance située. La connaissance située, c'est comme ça qu'elle nomme en fait ce besoin essentiel de savoir d'où on parle et d'où vient aussi notre savoir, notre expérience et notre rapport au monde. Et donc, avoir conscience aussi de ces biais. Et c'est comme ça qu'on parlait du privilège blanc et des privilèges qui étaient les nôtres pour faire face au réchauffement climatique et dans comment on vit ce réchauffement climatique. Et tu disais aussi comment est-ce que tu prends espoir dans le fait de transmettre aux enfants, aux jeunes générations, pas encore tout à fait mindfuckées par le système, comment leur transmettre aussi une envie de changer les choses et de faire mieux. Toi, t'as une enfant, tu veux en parler, de comment c'est pour toi aussi de transmettre ça à ton enfant et comment c'est pour toi aussi de... Voilà, d'avoir cette réalité au quotidien, de devoir aussi avoir ce petit être qui doit évoluer dans ce monde-là.
Ah bah, elle me donne beaucoup d'énergie. Après, elle m'épate aussi par ses capacités d'adaptation et ses capacités sociales, hein, que j'avais pas du tout à son âge, tout en ayant cette sensibilité, cette réceptivité à... Enfin, on passe énormément de moments de bonheur, d'émerveillement. Enfin, depuis qu'elle est toute petite, je l'amène partout avec moi et elle a un œil très affûté pour repérer les insectes, pour attendre les castors pendant des heures. Donc c'est son arrivée, ça a été ça m'a redonné un sacré élan. Sacrée force de vie, on va dire. Et quand elle était petite, je pense que c'est lié aussi. On s'est rencontrés avec Alice à l'occasion des premières marches pour le climat et le vivant qu'on a montées à Aubenas. Et je sais qu'à ce moment-là, bah, sur l'affiche, j'avais mis le regard de ma fille. C'est vraiment, ça a été un certain moteur d'engagement. Parce qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles j'étais plus actif, dans des luttes au sein d'associations, avec des périodes où j'ai pris après plus de recul, parce que au niveau de, enfin, ça me prenait beaucoup d'énergie, psychologiquement c'était compliqué. Enfin, il y a des phases, hein, comme on disait.
C'est vrai que le militantisme et l'activisme, c'est intense et énergivore. Et ça travaille aussi la santé physique et mentale. Et c'est vrai que notre amie Alice, du coup, elle s'est engagée aussi politiquement en voulant aussi rentrer dans le système pour changer les choses de l'intérieur, en s'engageant en étant candidate au municipal à Aubenas. Et ça me fait penser à un livre que nous a aussi proposé la bibliothèque Les Lins, Les Lunes dans sa sélection. C'est « Tout peut changer, capitalisme et changement climatique » de Naomi Klein. Et donc, qui vraiment nous propose d'oublier tout ce qu'on croit savoir sur le réchauffement climatique et de voir qu'au-delà de la crise écologique, il y a une crise existentielle qui est en jeu, celle d'une humanité défendant à corps perdu un mode de vie capitaliste et libéral qui l'amène à sa perte. Et est-ce que ça te parle, toi, cette critique du système, voilà, ce mode aussi de militantisme dans le militantisme politique, partisan ou autre?
Oui, après, moi, je crois beaucoup à l'auto-organisation, à l'archipélisation des luttes, aux expériences concrètes qui donnent à voir qu'il est possible de vivre autrement, avec d'autres valeurs. Et après, pour l'engagement politique, bon, on pourrait en parler beaucoup.
Mais c'est vrai que, comme tu me l'avais dit l'autre fois, que voilà, on a aussi cette problématique que les sommets pour la Terre, les COP, les rassemblements comme ça pour le climat sont aussi organisés par les coupables, en tout cas par les personnes qui font largement partie du problème. Et donc parfois, on a plus envie aussi de s'engager au niveau de la société civile.
Oui, tout à fait. Toutes les institutions, évidemment, sont confrontées aux graves problématiques qui vont se poser pour la perpétuation de cette société. Et il va se poser de plus en plus la nécessité, du coup, de changer des choses, finalement, pour ne rien changer, pour que la société puisse continuer de la même façon. Et si on compte sur les instances gouvernementales, surtout nos institutions, pour prendre ces décisions, ben ça risque d'être des remèdes pire que le mal, hein. On peut que compter sur l'auto-organisation, sur la société civile, à mon avis, pour contrer ça.
Et alors sur la société civile, c'est aussi la question du collectif et d'être ensemble et donc de l'assemblage des individualités. Il y a un livre qui m'a fait aussi écho à tout ça, c'est L'égologie. C'est un livre sur l'écologie, l'individualisme et la course au bonheur. Et ça nous parle justement aussi dans cette course au bonheur, de tous les apports du développement personnel et donc du fait que face au désastre capitaliste, l'écologie se présente souvent comme une réponse globale et positive, un changement de rapport au monde appuyé par des gestes au quotidien. Mais avec cette idée du colibri que chacun fait sa part, on considère la société comme un agrégat d'individus et le changement social comme une somme de gestes individuels. Et donc, pour elle, cette vision du monde ne succombe pas à la logique libérale dominante, signant le triomphe de l'individualisme et du capitalisme. Et donc il s'agit aussi de repenser nos modes d'action comme des modes d'action collectifs et voilà, et de se dire aussi qu'on n'est pas là en train de préserver sa vie ou son confort, on est en train de préserver la vie tout court et le vivant.
Ouais, ça c'est assez juste à mon avis. Il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre le développement personnel avec tous ces concepts creux et ce qu'on nous rabâche aussi au niveau de l'écologie mainstream avec enfin le enfin, je sais pas
C'est une manière de nous endormir
Oui,
aussi,
c'est ça, je pense, voilà.
de nous dire,
Entre le développement
oui,
personnel et le développement durable,
il n'y a qu'un
il n'y a
pas.
qu'un pas. Voilà.
Parce que c'est super sur le principe de il faut, comme tu le dis, quand on est sur des luttes comme ça, il faut ô combien s'occuper de soi, de sa santé mentale et physique, parce que sinon on s'écroule et on ne sert plus à grand-chose. Mais sans être dans une vision utilitariste de l'engagement, en fait, s'occuper de soi, oui, mais pourquoi? Dans quel but? Est-ce qu'on est en train de prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres et mieux préserver le vivant et l'environnement, ou juste pour pouvoir faire son petit chemin de son côté le plus tranquille possible? Et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment une crise existentielle aussi sur pourquoi on est sur Terre en fait. Juste, est-ce qu'on est sur Terre pour avoir une Tesla ou est-ce qu'on est sur Terre pour essayer de donner le meilleur de nous le temps qu'on est sur cette planète? Et sur les aspects aussi positifs qui peuvent nous donner de l'énergie, moi il y a un livre qu'on m'a offert que j'ai dévoré parce que franchement j'en avais besoin. Ça s'appelle Les éco-optimistes, remède à l'éco-anxiété. Ça a été écrit par Dorothée Moissan. Et c'est vraiment donc plein d'histoires de personnes inspirantes, des histoires concrètes, des vies de jeunes, de moins jeunes, d'hommes, de femmes qui ont été consacrées et qui sont consacrées à l'action, à justement cette contemplation et cette lutte environnementale. Et ça m'a beaucoup parlé parce que finalement, On parlait de marginalité et de faire aussi de cette marge et de cette conscience et de cette lucidité une force et un moteur finalement pour l'action. Et d'ailleurs, la Bibi nous a aussi conseillé une BD à jeunesse qui s'appelle Les Révoltés de l'Oasis, où on se demande s'il faut sacrifier les humains dans cette BD de Lucie de Rouen. Donc, c'est une référence aussi qui peut nous donner matière à réflexion. Toi, c'est important pour toi aussi de t'entourer d'éco-optimisme.
Ouais, alors je me méfie toujours de ce qui est présenté comme optimiste, parce que quand on présente les bonnes nouvelles par rapport à l'écologie, souvent c'est des choses qui paraissent tellement anecdotiques par rapport aux enjeux en fait auxquels on est confronté. Faudrait au niveau de notre consommation de ressources qu'on divise par 6 notre niveau de vie quoi en Occident pour cesser de creuser la dette, quoi. On a du mal à se rendre compte, en fait, de ce que nécessiterait, en fait, de changer vraiment nos vies pour cesser d'épuiser la planète. Et donc, moi, souvent, ça me déprime, les bonnes nouvelles.
C'est vrai que j'avais lu un livre il y a un moment qui s'appelait, je crois, Le monde va mieux que ce que vous ne croyez, ou je sais pas quoi, c'était nul. Et je m'étais dit, mais c'est quoi ce livre écrit par un vieux mec blanc là? Et ça, franchement, je t'assure que ce livre, il est différent parce que c'est des initiatives concrètes, c'est des utopies concrètes et ce sont des utopistes concrets et concrètes. Par exemple, ça, on parle d'une jeune qui est nommée dans ce livre la pépite verte parce qu'elle va s'engager pour le climat parmi des organisations d'activistes et de militants et militantes sur le terrain. Ouais. On y parle aussi d'un punk solaire, c'est le récit d'un papa qui, en août 2021, en fait, après avoir reçu une alerte sur le dernier rapport du GIEC, a été si dévasté qu'il a voulu faire quelque chose absolument là, maintenant, de suite, de concret. Et donc, il a décidé de faire une grève de la faim. Et cette grève de la faim a eu des impacts dans des prises de décisions politiques, etc. On y parle aussi, donc là, de la légitimité face à la peur de vouloir agir et dénoncer et sensibiliser. Et puis, il y a aussi d'autres domaines qui sont abordés, comme par exemple le petit prince des low-tech. Donc justement, quand on parle de technologie, on parle tout le temps de technologies qui sont énergivores et de technologies qui sont aussi en cause du réchauffement climatique. Et bien là, c'est aussi un discours sur la méthode. Il nous dit, voilà, quand on a un Mark Zuckerberg, quand on a un Elon Musk qui nous vendent des produits de technologie, de haute technologie, le marketing est incroyable, il nous donne à rêver un mode de vie fantastique, une course au bonheur effrénée, une vie qui a l'air vraiment géniale. Donc nous aussi, dans les low-tech, on n'a qu'à se réapproprier aussi ce marketing-là. Alors c'est une vision.
Ça risque de faire rire un peu Mark Zuckerberg.
Mais... C'est clair. Je sais pas, toi, ça te parle,
oui,
ces modes d'action?
Moi, je conçois qu'on puisse utiliser les outils disponibles dans le combat culturel. Moi, ce qui est important déjà, c'est le diagnostic, c'est la lucidité en fait sur les désastres en cours. Parce que si on n'est pas, on n'a pas une vision juste en fait des enjeux, on peut pas apporter les bonnes réponses. Moi, c'est déjà le premier point qui est vraiment important. Et donc, sortir du déni. Moi, ce qui me rassure, c'est d'entendre justement des discours qui sont lucides, des visions qui cessent de se mentir et de s'imaginer qu'on peut, que notre mode de vie privilégié peut perdurer avec de menus ajustements et du tri sélectif, quoi.
Ouais,
moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'aller vers une approche révolutionnaire, vraiment quelque chose de se passer en rupture, quoi.
Tu me parles révolution, je vais t'en amener de la révolution. Il y a cet autre ouvrage que la Bibi nous a proposé, c'est Françoise Daubonne et l'écoféminisme. Et on en parlait ensemble puisque tu me disais qu'en fait tu avais vu un documentaire, une émission
sur Blast,
qui disait si Sandrine Rousseau vous fait peur, vous n'êtes pas prêt pour Françoise Daubonne, c'est ça?
Ah, j'avais beaucoup aimé. De toute façon, il y a des super émissions hein, sur Blast.
Et c'est vrai que nous, on parle souvent de féminisme intersectionnel et de convergence des luttes. Et l'écoféminisme en fait partie. Elle est vraiment une précurseur, hein, vraiment, de ce terme d'écoféminisme. Avec, bien sûr, la nuance qu'elle est née en 1920, je crois, et morte en 2005. Et donc, bien sûr, elle est aussi issue d'une autre époque, d'une autre génération. Elle est vraiment en plein dans le mouvement de libération des femmes, les années 70, etc. Mais quand je vois qu'elle a été reprise comme un héritage du transféminisme intersectionnel et des modes d'action vraiment très radicaux, ça me rassure en fait aussi sur le fondement de sa pensée. Elle, bien c'était sûr. Une radicale, c'était une révolutionnaire, c'était une activiste de terrain. D'ailleurs, elle a été publiée dans la collection, l'excellente collection des précurseurs, précurseuses de la décroissance chez le passager clandestin. Toi, du coup, l'écoféminisme, c'est...
Ça me parle, bien
ça
sûr.
Ça te parle.
Ah ben, tous les attributs de la masculinité dans notre société, c'est évidemment complètement lié au désastre. Et enfin, tous ces trucs de virilité. Enfin, là, quand on voit les discours récents par rapport aux technogourous de la Silicon Valley, qui enfin, maintenant tout ce retour par rapport à ça, enfin, on voit bien que c'est évidemment enfin, toute cette masculinité qui nous mène au désastre. Et j'ai énormément de respect et d'admiration pour des militantes comme Vandana Shiva, justement, qui situe de cette façon la problématique. Ouais.
Un des petits mots de Françoise Daubonne pour nous inspirer dans cette lancée. Elle nous dit alors, avec une société enfin au féminin qui serait le non-pouvoir et non le pouvoir aux femmes, il serait prouvé qu'aucune autre catégorie humaine n'aurait pu accomplir la révolution écologique, car aucune n'y était aussi directement intéressée à tous les niveaux. Et les deux sources de richesse détournées au profit du mal redeviendraient expression de vie et non plus élaboration de mort. Et l'être humain serait traité enfin d'abord en personne et non avant toute chose en mâle ou en femelle. Et la planète mise au féminin reverdirait pour tous. Ça, c'est issu de son ouvrage Le féminisme ou la mort. Et il y a un autre grand ouvrage aussi assez connu qu'elle a écrit qui s'appelle Les femmes avant le patriarcat. Voilà, pour elle, c'est évident que on ne peut pas différencier le féminisme et l'écologie. C'est donc un combat qui va dans le même sens à mener de concert. Il y a aussi un autre ouvrage qu'on peut retrouver à la Bibli, Les Lins, les Lunes, qui s'appelle carrément Être écoféministe, théorie et pratique, et qui a été donc écrit par Jeanne Burgart-Goutal. Et donc... elle nous dit « Oppression des femmes et destruction de la nature seraient deux facettes indissociables d'un modèle de civilisation qu'il faudrait dépasser. » Telle est la perspective centrale de l'écoféminisme. Mais derrière ce terme se déploie une grande variété de pensées et de pratiques militantes. C'est intéressant parce qu'on en revient aussi à ce terme de civilisation. Tu veux développer davantage, puisque dans la première partie, on n'a pas pu en parler plus que ça, de comment est-ce qu'on peut mettre aussi l'une des raisons de notre effondrement de société et de réchauffement climatique et de destruction de ce monde par... la construction culturelle et la civilisation ?
Effectivement, je pense que c'est important vraiment de déconstruire tous ces piliers qui font partie vraiment de notre éducation, dans laquelle on nous a présenté tous les bienfaits de la civilisation en opposition au mode de vie des pays sous-développés, enfin de tous ces sauvages qu'on a colonisés. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens encore qui ont conscience à quel point, en fait, on peut résumer la problématique déjà sur ce mot de civilisation. Parce que la civilisation, c'est rien d'autre qu'une société qui atteint un certain degré de complexité et donc dans laquelle les individus ont de moins en moins de pouvoir quoi, en eux-mêmes. C'est des machines colonisatrice, suprémaciste. Parce qu'il y a énormément d'aspects en fait qui font partie de notre culture qu'on pense pas forcément à re-questionner, qui nous semblent relever du bon sens, de la rationalité, et qui pourtant font partie de tout ce système d'abstraction, de croyances en fait structurantes de la société. Moi, je me suis toujours senti un petit peu en décalage par rapport à ça, du fait d'avoir grandi comme ça, au contact de la nature, d'avoir eu pour amis des arbres, des animaux, enfin bon. Il y a une lecture récemment qui m'a fait beaucoup de bien, c'est celle de David Abraham. C'est un écologue américain, philosophe, qui a une approche de phénoménologie. C'est-à-dire qu'il élude en fait toutes les abstractions liées à notre culture pour développer un rapport sensible au monde. Et en fait, dans ses recherches, il se rapproche beaucoup de la pensée de tous les peuples de culture orale. Je me suis beaucoup retrouvé là-dedans.
Ben, ça tombe très bien parce que la prochaine émission sera donc en mars consacrée à des modes de vie alternatifs et aussi à la déconstruction de plein de constructions culturelles qu'on croit être des acquis innés et en fait non, on peut s'en défaire. On va parler aussi de modes de vie communautaires, de modes de vie d'éco-village, etc. Et il y aura deux références de la Bibli qui vont beaucoup servir, c'est à la recherche de l'écologie temporelle et les écologies déviantes sur le voyage en terre queer de Chaï Lesserfs-Maulpois. Et donc voilà, on parlera aussi de comment est-ce que dans ces modes de vie collectifs aussi, quid de l'abandon des libertés individuelles dans notre mode de vie occidental. C'est pas si facile, tu l'as dit toi-même, ayant vécu 6 mois au Sénégal dans la famille de ta compagne, que c'était aussi forcément, on n'est pas habitué à ça et il faut redéfinir aussi qu'est-ce que c'est que vivre ensemble, etc. Et bon, pour mettre de la lumière aussi, moi je sais que ce qui m'aide aussi, c'est la notion bouddhiste aussi, mais pas que de l'interdépendance. Et je sais que dans un sommet qu'on avait organisé à l'Erabling, dans un temple bouddhiste tibétain, on avait réfléchi au lien entre bouddhisme et écologie. Et là-dedans, on arrive très concrètement à mettre aussi des constructions culturelles par rapport à comment on vit notre rapport et notre lien avec le vivant. Donc, tu n'es pas seule à avoir des amis, les arbres. Pense à Descola et à voilà, tout ce qu'ils nous partagent sur les sociétés animistes. Ça nous donne aussi à voir un autre monde que notre vision naturaliste, suprémaciste, où
Ouais,
on est toujours
complètement.
au-dessus et meilleur que la nature. Eh bien, finalement, ça nous amène à pas mal de pistes de réflexion, tout ça, à cette volonté qu'on a d'être à la hauteur face à l'urgence climatique, d'être en cohérence aussi dans nos militantismes, d'expérimenter un autre mode de vie, un autre rapport au vivant, en étant en équilibre avec soi et avec toute chose et en harmonie. La tâche est immense, mais si l'infiltration du système ne marche pas, parce que ça prend une énergie folle, comme nous le dirait Alice, et que ça nous amène à une solitude extrême, eh bien, j'ai l'impression que faire collectif, se rassembler, vivre autrement, chérir la marge, ça semble être une jolie piste de possibilités. Et puis toujours, bien sûr, préserver sa santé mentale dans cette énergie collective aussi, parce qu'on parlera jamais assez du validisme de nos luttes, parce que c'est très compliqué de lutter, ça prend beaucoup d'énergie, et tout le monde aussi ne le peut pas, en tout cas tout le temps. Donc voilà, n'oubliez pas des ressources qui peuvent aussi servir par rapport à cette thématique. J'ai trouvé le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique, RAFUE, RAFUE. C'était notamment sur le site de la Maison des éco-anxieux que j'ai trouvé ça. Bon, je trouve quand même que les Canadiens sont meilleurs avec leur commission de la santé mentale du Canada. Voilà, ils nous amènent aussi pas mal d'informations très précieuses sur des actions concrètes, comment aussi voir les symptômes de l'éco-anxiété, comment les soigner, comment trouver des psychologues aussi adaptés et des modes d'action aussi pour s'engager. Et puis le réseau, tous ces co-responsables sur l'enseignement agricole, je le trouve très inspirant aussi sur cette thématique. Et puis il y a des psychologues comme par exemple à Toulouse, Claire Wallez, qui s'est engagée. Elle a carrément créé un site qui s'appelle psychologie-et-climat.fr où on y trouve des témoignages inspirants justement de personnes qui sont engagées dans le quotidien. Elle fait aussi des fresques du climat, enfin tu vois, ce genre d'action vraiment inspirante aussi pour comprendre visuellement aussi tous les mécanismes comme ça qui s'entremêlent dans les réchauffements climatiques. Voilà, ça c'est des ressources pour vous. Est-ce que tu as une ressource supplémentaire à laquelle tu penses, Simon, que tu voudrais partager?
Non, moi je pense que c'est. Enfin, on dit souvent que ce qui fait du bien moralement, c'est de s'engager, quoi, concrètement. Je pense qu'on a tous, avec nos particularités, toutes nos spécificités, nos différences, des choses à apporter. Et faut être capable de croire un petit peu en soi. On peut être complètement dépassé quand on regarde la marche du monde, quand on regarde l'événement de ce nouveau fascisme-là, avec l'élection de Trump, enfin, c'est flippant, évidemment. Mais face à ça, on peut que se dire bah, vive les sauvages, vive les ZAD, vive ceux qui essayent de faire fleurir autre chose, toutes ces pensées sauvages. Et peut-être là-dedans qu'il y a des brins d'espoir dans toutes ces fleurs qui percent le bitume ici et là.
Et puis se rassembler, ça donne de
Voilà.
la force.
Ouais.
Merci beaucoup Simon pour ta présence dans cette émission, dans ces deux parties. Merci aussi aux copains de la Bibli, Jade, Justine qui m'ont aidé à concocter cette sélection de livres. Merci à Clara à la technique, merci à la radio Fréquence 7 d'accueillir cette émission. Et bien c'était Cal pour l'émission Nos santé mentales en lutte et on se retrouve chaque premier et troisième jeudi du mois à 21h sur Fréquence 7 et à chaque heure du jour et de la nuit en replay. Des bisous! Nos santé mentale en lutte.